Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Et c'est le cortège royal. Voici maintenant le carrosse tiré à 8 chevaux, les chevaux gris de Windsor, qui ont aujourd'hui leur chose étonnante. Leur crinière a été teinte en pourpre, c'est le carrosse doré, et la foule salue, acclame la reine qui va pénétrer dans l'abbaye de Westminster.
20 juin 1953, le couronnement d'Elisabeth II, commenté en direct dans le monde entier, des carillons, des hymnes, une clameur populaire, et puis le fameux « God save the Queen » que vous entendez. 64 ans plus tard, après avoir côtoyé Nehru, l'empereur Hirohito, le général de Gaulle, Nelson Mandela, après avoir visité 132 pays, Elisabeth II fête aujourd'hui ses 90 ans. Une reine qui est littéralement adorée par ses sujets. Aujourd'hui, les trois quarts des Britanniques se disent attachés à la monarchie et ils l'ont encore démontré ce matin au pied du château de Windsor. Mais la fête tombe cette année dans un contexte un petit peu plus délicat que les années précédentes. Dans deux mois, le 23 juin, les Britanniques voteront pour ou contre le Brexit, pour ou contre une sortie de l'Union européenne. Alors Elisabeth II protège-t-elle les Britanniques de la division ? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Jacques Leruet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, spécialiste de la Grande-Bretagne, directeur de recherche émérite au CNRS. Jean Descartes, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste des grandes familles, de la noblesse européenne et l'auteur d'un livre, La saga des Windsor, dont une dernière édition date de 2011, je crois. Jean Descartes, justement.
2016.
Jean Descartes, comment on explique aujourd'hui, après 64 ans de règne, une telle popularité d'Elisabeth II ?
Parce que la reine s'est tenue en dehors de la politique, du moins d'une façon extérieure. Il faut rappeler que même si statutairement elle conseille le gouvernement, qui est le gouvernement de Sa Majesté, disposant de trois prérogatives depuis la reine Victoria, c'est-à-dire le droit d'informer, le droit de consulter, le droit de mettre en garde, c'est le gouvernement qui décide, bien sûr. Mais la reine est une mémoire mondiale, parce qu'enfin, c'est fabuleux. Elle a commencé comme princesse héritière à être au courant des dossiers de l'État en 1942, lorsque son père lui remettait les fameuses Royal Boxes, et jusqu'à aujourd'hui, où elle reçoit son premier ministre. Un premier ministre qui, je le rappelle au passage, lorsqu'il est né, la reine régnait déjà depuis 12 ans. Donc c'est une mémoire extraordinaire d'une personne dont on ne peut jamais dire exactement ce qu'elle pense.
Alors,
elle est là pour ça.
On va y revenir. Elle n'a jamais donné aucune interview, si mes informations sont exactes. Alors, vous nous dites mémoire, vous nous dites neutralité, mais certains disent aussi que cette popularité s'explique grâce à sa personnalité et à son travail. Alors, quelle est cette personnalité, Jean Descartes ?
Il y a une éducation et un métier qu'elle fera jusqu'au bout. C'est une femme qui travaille beaucoup, réveillée à 7h30 tous les matins, qui va prendre connaissance des messages confidentiels du gouvernement, des analyses, des rapports d'experts, ce qui en fait la femme la mieux informée du monde depuis très très longtemps, sans pouvoir en parler autrement qu'au Premier ministre. On ne connaît pas réellement ses sentiments parce qu'elle n'est pas là pour les montrer. On l'a vu sourire au mariage de Kate et William. On l'a vu verser une larme au moment où le yacht royal Britannia était désarmé parce qu'elle disait, dans le fond, c'est notre seule maison que nous ayons construite par rapport au palais de Buckingham, au château de Balmoral et au château de Windsor, bien entendu. Elle est là depuis tellement longtemps avec son effigie qui a changé 5 fois sur les billets de livres sterling que les gens sont habitués qu'un peu comme sa mère, la reine-mère, qui a vécu jusqu'à 102 ans. Donc c'est une espèce de constante, alors que le monde a connu des bouleversements fantastiques.
Alors vous m'offrez une transition absolument parfaite. Justement, Jacques Leruet, je voulais en venir à cet aspect-là des choses. Elle a traversé le siècle avec les Britanniques, et pourtant la Grande-Bretagne qu'elle connaît en 1953 n'est plus du tout la même que celle qu'on connaît aujourd'hui. Décolonisation et puis déclin. Elle a beaucoup changé, cette Grande-Bretagne ?
Ah oui, absolument. Et il y a eu de rudes périodes, en particulier dans les années 70. Et l'image de la reine n'a pas été touchée pour autant, puisque elle règne, mais ne gouverne pas, en fait.
On aurait pu lui imputer, dans un sens aussi, la responsabilité de ces changements ?
Non, parce que c'est d'abord c'était le sens de l'histoire quand il s'agit de la décolonisation. Et puis ensuite, ce sont les gouvernements qui font des erreurs économiques, qui gèrent vraiment le pays, notamment dans ces domaines de politique intérieure. Je pense qu'elle ne conseille même pas beaucoup. On a dit à l'époque thatchérienne que c'était probablement...
L'époque pendant laquelle les relations ont été manifestement difficiles.
Oui, c'est ça. On a dit que la reine n'était pas très heureuse vis-à-vis de la politique économique et sociale, bien sûr, de Thatcher, et que c'est probablement le premier des premiers ministres avec lequel elle s'est le plus mal entendu. Et pourtant, c'était quelqu'un qui sortait du Parti conservateur, mais c'est précisément... ça n'était plus le Parti conservateur d'antan, c'est plus le Parti conservateur de l'époque tchétchénienne ou de Macmillan, etc.
Alors vous nous dites, et pourtant elle était conservatrice, mais Jean Descartes, Elisabeth II n'est évidemment ni de droite ni de gauche.
Non, on ne sait pas. La reine ne vote pas. La reine ne vote pas. D'ailleurs, elle n'a pas de carte d'électeur. Elle n'a aucun papier. C'est la plus célèbre des sans-papiers au monde. Mais dans le cas de Madame Thatcher, je me permettrai d'ajouter qu'il y avait deux raisons personnelles. La première, c'est quand le Premier ministre s'est mis à porter des robes de la même couleur que la reine. Et d'autre part, a utilisé dans sa conversation un « oui, nous » de majesté, qui n'était pas convenable. Et ça, c'était une faute d'usage, de protocole.
Oui. Et puis, il est possible aussi que, simplement, elle était habituée à discuter avec des hommes, et ça lui convenait mieux. Oui. Surtout ceux qui étaient dans l'esprit de quelqu'un comme Macmillan, par exemple, qui était le conservateur favorable à ce qu'on a appelé l'union, enfin, le One Nation Party. Ça n'a plus été le cas avec Thatcher et même avec les successeurs. Alors, les dissensions qu'il y a pu y avoir entre Thatcher et la reine ont surtout porté sur le Commonwealth.
Jean Descartes.
La reine, par principe, ne doit pas donner son sentiment sur un ministre ou un chef du gouvernement. Elle a fait une exception à titre posthume pour Churchill. Quand on lui a demandé ce qu'elle en pensait, puisqu'il l'avait accueilli à sa descente d'avion lorsque son père était mort en 1952, il avait été ébloui par sa connaissance des dossiers de l'État. Et la reine s'est bornée à dire, avec un sens typiquement de l'understatement britannique, il était divertissant. Ce qui est un mot qui résume extraordinairement Churchill.
Jacques Leruez, je voudrais qu'on en vienne à cette neutralité dont Jean Descartes nous a parlé il y a quelques minutes. Quel est le rôle institutionnel concret d'Elisabeth II? On parle de neutralité, mais alors en quoi consiste-t-il ce rôle de neutralité?
Elle a un rôle constitutionnel formel. C'est elle qui nomme le Premier ministre, c'est elle qui dissout la Chambre des communes, c'est elle qui, en fait, toute l'organisation de l'État passe par elle, en quelque sorte.
Mais alors, dit comme ça, quand on dit elle nomme le Premier ministre, elle le nomme, mais elle ne le choisit pas.
Ah, elle ne choisit pas, absolument pas. Et il lui est arrivé, d'ailleurs, de le choisir à deux reprises. Oui. Fortement entourée. Elle n'était pas la seule à décider.
Oui, parce qu'il y avait une sorte d'équilibre du résultat électoral.
Oui. Donc elle a dû trancher.
Elle a dû trancher.
Quand?
Oui. Oui, enfin.
60,
70. Oui, enfin, c'était. Non, ce qui s'est passé, c'était la démission de Churchill. Anthony Eden s'est imposé, sans problème. À la démission d'Anthony Eden à la suite de l'affaire de Suez, Le Magic Circle, ce qu'on appelait le Magic Circle du Parti conservateur, parce que à ce moment-là, le leader du Parti conservateur n'était pas élu par les députés, le Magic Circle, qui était constitué de gens âgés, de pères en particulier, qui voyaient, qui ne voulaient pas de vague, quoi, en fait, et qui ne voulaient pas d'un personnage trop tranchant, ont préféré, en quelque sorte, inviter la reine à choisir Macmillan plutôt que Butler, qui était l'homme qui s'imposait à l'époque.
Voilà, parce mais mis avait... à part ces petits épisodes historiques...
Il y a une curiosité, oui. C'est qu'elle a eu deux fois le même Premier ministre, Harold Wilson, c'est assez intéressant, dans les années 60-70. Oui. Non, je crois, si vous voulez, la reine n'a pas de pouvoir réel apparent, mais elle a quelque chose qui est, à mon avis, au moins aussi important, une influence considérable, qui est faite d'éducation, qui est faite de son statut, de sa longévité, et qui est très impressionnante, n'est-ce pas ? Elle incarne la permanence de l'État, et Dieu sait s'il y a eu des crises. Alors, il faut imaginer que cette jeune princesse héritière, qui se marie en 47, qui fait son premier voyage à l'étranger en France, elle nous a choisis.
Et elle parle d'ailleurs le français remarquablement, bien, elle parle très on bien l'entend
français,
parfois.
Très très bien français, elle avait été élevée pour ça, c'était l'époque où le français était une langue recherchée. Et je crois qu'il y a quelque chose qui tient l'essence de la monarchie, elle incarne la permanence de l'État. Et ce que vous voyez dans d'autres monarchies, mais elle avec un prestige extraordinaire compte tenu de la durée, bien sûr, puisque aucun souverain britannique n'a régné aussi longtemps ni aussi âgé, ce qui est encore à attribuer à cette reine des records.
Oui.
Et donc ça, ça impressionne beaucoup les gens. On a l'impression qu'elle a toujours été là, n'est-ce pas?
C'est ça. Et alors justement, est-ce que, vu la crise, les crises que traverse aujourd'hui son pays, alors je l'ai dit, il y a ce vote, le Brexit qui arrive dans deux mois, il y a aussi eu l'épisode écossais qui est compliqué, oui, elle est d'autant plus importante aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Alors, la crise de son pays, c'est peut-être une crise de l'Union européenne dans l'image qu'elle donne au Royaume-Uni. Ça, je crois qu'on peut peut-être aussi inverser la question. Oui. Il y a beaucoup de Britanniques qui trouvent que l'exemple européen n'est pas brillant, même si on a envie d'être unis. Voilà. Ça, alors, ce que ça donnera, je l'ignore. Quant à l'Écosse, j'ai trouvé qu'elle avait relevé d'une façon assez extraordinaire, après le référendum refusant l'autonomie, pour fêter son record de longévité sur le trône par rapport à sa trisaïeule Victoria. Elle est allée en Écosse inaugurer la remise en service d'une ligne de chemin de fer à vapeur qui avait été elle-même inaugurée par sa trisaïeule Victoria en 1869. Elle est très attachée à l'Écosse. Sa mère était écossaise et elle a une passion pour Balmoral.
Jacques Lauruez, vous vouliez réagir sur ces crises qui traversent aujourd'hui le pays.
On l'a accusé effectivement vis-à-vis de l'Écosse de manquer peut-être de neutralité politique parce qu'elle est quand même intervenue deux
elle
fois.
Elle a dit qu'il fallait bien réfléchir avant de voter, si
oui,
je me souviens
alors
bien.
Oui, alors ça c'était le dernier épisode au moment du référendum de septembre 2014. Mais il y avait eu aussi un autre épisode plus ancien. Je crois que c'était en 77 ou c'est ça, 77 ou 78, où elle avait prononcé un discours où elle avait mis l'accent sur son regret vis-à-vis de l'unité du royaume qui était menacée.
Donc elle est capable de sortir d'une certaine neutralité parfois. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait le faire, par exemple, pour ce référendum ? Est-ce que les Britanniques ont envie de l'entendre sur ce sujet, pour ou contre l'Union européenne ?
Je pense qu'elle n'interviendra pas. Je pense que là, c'était justifié par sa défense de l'unité du pays. Après tout, elle est là pour ça, défendre l'unité du pays. Et dans les deux cas, écossais, en quelque sorte, c'était ça. C'était
oui,
ça.
En 77 comme en 2014.
Elle redoute une séparation, même si... comme le dit le Parti nationaliste, elle resterait chef d'État pour l'Écosse. C'est-à-dire qu'elle fonctionnerait exactement de la même façon que pour l'Angleterre, enfin ce qui resterait du Royaume-Uni. Mais il est bien évident que pour elle, ça serait un déchirement.
Jean Descartes, oui. Vous êtes d'accord
Il y a une erreur des Français, on parle toujours de la reine d'Angleterre, mais en fait il y a quatre nations, n'est-ce pas, dont elle est la souveraine. Oui, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Irlande du Nord. Donc l'expression Royaume-Uni doit être très très protégée, le UK. Je ne pense pas que la reine se prononce sur le Brexit, du moins pas officiellement. Elle a forcément une idée, comme elle a une idée sur tout, c'est normal. Compte tenu des informations et des renseignements dont elle dispose depuis plus de 65 ans.
L'influence dont vous parliez, vous pensez qu'elle en use aujourd'hui dans la classe politique pour...
C'est difficile à dire, mais dans les conversations qu'elle a avec le Premier ministre, il n'est pas interdit de penser qu'elle lui dit ce qu'elle en pense, ou faites attention, ceci, cela. Et si le Premier ministre vient de lui rendre hommage aujourd'hui à la Chambre des communes en disant qu'elle était un roc, c'est en effet une personne dont on n'imagine pas l'absence, n'est-ce pas ? Et on voit très bien le côté, j'allais dire, psychanalytique de la crise au moment de la mort de la princesse Diana, et qui a été un choc terrible parce que la reine, tout d'un coup, était absente, entre guillemets, parce qu'à mon avis, elle réagit surtout en grand-mère, en pensant à ses petits-enfants, et que le contentieux avec son ex-belle-fille avait été quand même extrêmement aigu, et que, n'en déplaise au soutien parfois hystérique de la princesse Diana, elle n'avait pas été facile à gérer en jouant un jeu avec les médias, notamment très ambigu. Oui.
Alors, avant d'en venir évidemment à la succession, je voudrais quand même rapidement, Jacques Le Ruez, vous poser la question de l'influence aujourd'hui des Républicains. Sont-ils nombreux ? Se font-ils entendre ? Y a-t-il des gens qui veulent la fin de la monarchie ?
Non, de temps en temps, vous avez un aperçu d'une minorité républicaine, mais extrêmement réduite. Et je pense que par contre, le sentiment républicain pourrait monter si le successeur d'Elisabeth n'était pas à la hauteur. Et une des raisons pour lesquelles elle persiste...
Donc ce qui est populaire, c'est plus Elisabeth II que la monarchie, c'est ce que vous voulez dire.
Bon, on avait dit à une certaine époque qu'elle se retirerait peut-être une fois qu'elle aurait dépassé le temps de Victoria. Mais ce n'était pas de tout son temps. En fait, elle se défie beaucoup de Charles. Je pense qu'elle craint peu que Charles ne fasse...
Précisément, Charles, ce fils, écoutez, Jean Descartes,
oui, ce n'est pas l'opinion qui règle la succession. Et j'observe qu'au dernier sommet des chefs du gouvernement de Malte, le dernier sans doute que présidera la reine, il y a 6 mois, elle a tenu à ce que le prince de Galles, Charles, ait des entretiens seuls avec les chefs du gouvernement, des entretiens politiques au plus haut niveau. Ça représentait tout de même 16 États. Des dizaines et des dizaines de millions d'habitants dans ce qui reste de l'ancien empire britannique. D'autre part, l'abdication après le cauchemar d'Édouard VIII, le duc de Windsor, son oncle dit qui n'est pas dans la tradition britannique, ne l'a jamais été, et la reine a répété qu'elle irait jusqu'au bout de ses forces au service de la nation. Alors, il faudrait un accident de santé grave, effectivement, une procédure d'empêchement, qui serait, à mon avis, un traumatisme pour la population, car de toute façon, c'est toute une page qui est liée à la fois un peu à l'entre-deux-guerres avec sa jeunesse, Lilibet a son rôle pendant la guerre, à l'après-guerre imaginez qu'elle a tout connu, la menace d'une troisième guerre mondiale avec la guerre de Corée, l'Allemagne divisée en deux, puis ensuite la chute du mur, etc. Les transformations, tout en les accompagnant, en décorant les Beatles, en permettant que Buckingham Palace soit transformé en boîte de nuit pour le mariage de Kate et William, c'est quelqu'un qui accompagne la mode et qui est de toute la mode sans être la mode.
Et donc on verra bien si son successeur, Charles, d'après ce que vous nous dites, sera à la hauteur. Merci beaucoup messieurs, c'est déjà la fin de cette émission, le temps court vite sur RFI. Merci donc à nos deux invités, Jean Descartes, journaliste, écrivain, auteur de la saga des Windsor, une dernière réédition cette année en 2016, Jacques Leruet, politologue spécialiste de la Grande-Bretagne, directeur de recherche émérite au CNRS. Merci également à Florence Ponce, à Mathieu Salabert. Tout de suite, c'est un nouveau journal.